qu'on a zappé pour certains. Bon, j'ai entendu dans le chant quand même que chacun était là, bien présent, éveillé. Alors je vous propose encore un petit message, ce sera plus court que celui ce matin. Je me suis posé un petit peu la question, que choisir, toujours basé bien sûr sur la parole de Dieu. Je pensais à ce verset d'abord du psaume 119, un psaume qui parle de la parole, et qui dit « J'ai de la joie en ta parole, comme un homme qui trouve un grand butin ». Bon, c'était l'époque où il y avait des guerres, où le butin de guerre c'était quand même une source d'enrichissement conséquente. Aujourd'hui on dirait plutôt quelqu'un qui a gagné le gros lot à Euromillion ou au loto. Eh ben ouais, j'ai de la joie en ta parole plus que cela. Est-ce qu'on le réalise? Et en tout cas, nous aussi, comme David, nous pouvons nous réjouir en lisant la parole de Dieu. Alors c'est pour ça que je vous propose de nous appuyer sur la parole de Dieu. Et parmi pas mal de sujets qui se présentaient à moi, j'en ai choisi un que j'ai rarement entendu, parce que moi j'aime un petit peu voir les mots grecs, même si je ne connais pas le grec, et j'ai été attiré par le fait que cette fois dans le Nouveau Testament, on trouvait grande joie. Enfin, pour être plus exact, c'est 6 fois, megas charis, grande joie, méga, et puis 1 fois polus cara. Et voilà, alors une petite nuance aussi, la joie, la grâce, c'est 2 mots qui sont très proches dans le grec, et il y a un lien entre les deux, et les salutations, quand on annonce la grâce à quelqu'un, c'est aussi annoncer la joie à quelqu'un. Et voilà, ces mots qui sont traduits par grande joie, très grande joie, un grand sujet de joie. Je me suis dit, tiens, il y a 7, voilà, quels sont ces sujets de joie qui ont pu susciter ainsi une joie si importante, si grande dans le Nouveau Testament? Peut-être que c'est encore quelque chose qui nous concerne et que nous pouvons peut-être trouver aussi là des pistes pour trouver notre joie à nous. Alors, je vous propose une réflexion sur chacun d'entre eux, plus ou moins longue, parce que, voilà, peut-être longue surtout sur le premier d'ailleurs. Et voilà, c'est l'occasion de pencher sur la parole de Dieu et d'essayer de comprendre donc la joie qu'elle a pu apporter, la joie qu'elle apporte encore aujourd'hui dans des événements qui nous sont rapportés. J'ai mis en marche ça. Alors, c'est pour ça que j'ai marqué 7 causes dans le Nouveau Testament, 7 causes qui ont procuré cette grande joie. Le premier verset, c'est chaque fois il se écrit en jaune, et c'est Matthieu chapitre 2 verset 10. Quand les mages virent l'étoile, qui est citée 4 fois dans ce chapitre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Voilà, une étoile, bon, l'étoile, elle a été le moyen quand même. Une étoile lointaine, donc, et cependant soumise au Créateur, a été le moyen d'amener les mages au Sauveur, de les conduire jusque-là. Une étoile, bon, chacun sait que ça brille, et de plus, chaque étoile a une trajectoire bien définie. Dans le ciel, le mouvement apparent de la Terre les fait se lever à l'est et se coucher à l'ouest, de même que les planètes que l'on voit dans la nuit. Cette étoile a donné aux mages la bonne direction. Et c'est ce qui a procuré cette très grande joie des mages en revoyant l'étoile, puisqu'ils l'avaient vue au point de départ de leur voyage. À propos des étoiles, déjà le psaume 19 nous dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». Alors si les cieux racontent la gloire de Dieu, peut-être que bien que cette étoile avait un message aussi à raconter, un message bien précis, qu'ont compris d'ailleurs les mages, puisqu'elle les a amenés au Sauveur. Ésaïe 40 aussi nous dit « Levez en haut vos yeux, voyez qui a créé ces choses ». Faisant sortir par nombre ou bien en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par la grandeur de son pouvoir et de sa force puissante, pas une ne manque. Pas une ne manque, ça veut dire que toutes sont à la place où Dieu les a voulues. Pas une ne manque, elles obéissent au Créateur et elles suivent la trajectoire qu'il a définie pour chacune d'elles. Et voilà, dans ce texte, au verset 3, j'ai pas mis tout le chapitre, il est dit, les mages viennent dire à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, nous sommes venus pour l'adorer. Alors je ne vais pas faire tout il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. Un livre en particulier, certains penseront que c'est un petit peu que ça va un petit peu trop loin, c'est l'étoile de Bethléem. Je ne sais pas si on le vend à la librairie de Bordeaux. Enfin, moi j'avais bien aimé quand même ce livre que j'ai lu il y a assez longtemps, je ne vais pas réviser. Et les mages, en tout cas, ont eu la grande joie d'apprendre la naissance. Ils savent que Jésus va naître. Où est né où est le roi des Juifs qui vient de naître? Le peuple ne le sait pas. Personne ne le sait qui va naître. Et eux le savent, ils viennent de plus de 1000 kilomètres, ils savent qu'il y a un roi qui vient de naître. Ils savent que c'est le roi des Juifs. Alors dans le ciel d'alors, puisque c'est des étoiles qu'on parlait, étoile, c'est un mot qui est aussi brillant, astre brillant, c'est aussi pour planète. Certains pensaient que c'est, allez je vous donne, Jupiter, qui à l'époque s'appelait la planète royale, qui est venu passer 3 fois à proximité de Régulus. Paraît-il, dans le ciel d'alors, on arrive à retrouver ces choses-là. Régulus, qui est donc l'étoile du roi. Et il y a eu des conjonctions pour une naissance de roi. 3 fois ce passage, cette conjonction, pour vouloir dire, pour les mages, ils ont pu l'interpréter comme une naissance. Et ça s'est passé dans la constellation de Léo, le lion. Ah voilà. Et le lion, c'est le peuple juif qui représentait Judas, qui est le lion de Judas, et qui représenterait ce peuple. Voilà donc une explication peut-être plausible des mages qui ont compris ce message dans le ciel. C'est quand même pas évident. Et pourtant, les Juifs, ils avaient la parole, l'écriture, l'Ancien Testament, et personne n'était là, personne ne savait. Comme quoi Dieu a ses voies et peut se révéler au-delà du peuple juif. Déjà, c'est une annonce de l'essaimage de l'évangile qui va être proclamé jusqu'au bout de la terre. Alors, ces mages, ils ont été conduits par l'étoile, bien mieux qu'un GPS. Les GPS, quelquefois, c'est sujet à caution. Et c'était un moyen moins sophistiqué, semble-t-il, mais en tout cas, c'était fiable. Et elle les a conduits dans la bonne localité et au bon endroit. Alors ils arrivent à Jérusalem, et c'est eux qui annoncent la naissance du roi des Juifs. C'est eux, les mages qui l'annoncent. Et ils cherchent à le voir, et ils vont apporter ce message qui est un message du ciel lui-même. C'est le ciel qui a parlé. Dieu parle par le ciel aussi. Par la création, par les étoiles, Dieu parle. Et plus à plus forte raison encore, nous qui avons la Bible, la parole de Dieu, Dieu nous parle aussi d'une autre manière. C'est son second livre, la Bible. Alors, leur foi est récompensée, et ils vont pouvoir voir l'enfant, ils vont lui apporter des trésors, les trésors qu'ils avaient cachés avec tant de soin, parce que les voyages à l'époque, c'était pas sécure, hein, il y avait des risques. Faire 1000 kilomètres avec des trésors, de l'or, de l'encens et de la myrrhe, il fallait quand même faire attention, ils ont été gardés par Dieu, et ils vont déposer ça au pied du petit enfant. J'ai fait remarquer qu'il est question du petit enfant, c'est lui qui vient le voir, et non la mère. Alors qu'est-ce que ça nous apprend de Dieu? Ben, ça nous fait comprendre que Dieu se fait trouver déjà de ceux qui le cherchent. Ces mages ont cherché, ils ont obéi au message qu'ils avaient compris, et ils sont venus. Ils n'ont pas hésité à faire le déplacement, plus de 1000 kilomètres pour venir voir le petit enfant. On sait que quand il est arrivé, il était dans une maison, et que ça se passait au moins 6 mois après la naissance de le Seigneur Jésus. Certains pensent que ça s'est passé à Noël. Et si les moyens ordinaires ne suffisent pas, Dieu a ses moyens. Et si ces moyens célestes, une étoile qui a conduit les mages, Dieu peut employer des grands moyens, des moyens extraordinaires. Et si on ne parvient pas à trouver le Sauveur, c'est certainement pas à cause de lui. Parce que de son côté, il fait ce qui est nécessaire. Il aide, il conduit, il guide, et c'est à nous, de notre côté, à le chercher. Et celui qui le cherche se fera trouver de lui. Alors, quelles applications pour nous, à partir de cette histoire? Certes, nous, on n'a pas vu l'étoile de Bethléem pour nous annoncer cette joyeuse nouvelle, mais on a entendu l'Évangile. L'Évangile aussi est venu du ciel, on le croit, c'est la parole de Dieu. Hein, même si des saints hommes ont parlé, ils étaient guidés par l'Esprit Saint. Alors, on a entendu cet évangile, cette bonne nouvelle, est-ce que vraiment nous remplit de joie, d'une grande joie comme les mages? La bonne nouvelle, l'évangile, c'est le moyen dont Dieu s'est servi pour nous amener à le connaître, pour nous amener au Seigneur Jésus. Et est-ce que j'espère qu'ici, tout le monde a obéi à l'évangile et suivi la direction qu'il montre, parce que l'évangile, il pointe vers Jésus-Christ le Sauveur. Alors Dieu s'est servi d'un corps céleste, aussi une deuxième application peut-être, il s'est servi d'un corps céleste brillant pour conduire les mages à Bethléem, à la rencontre du Sauveur. Aujourd'hui, il veut nous utiliser aussi, nous, ses enfants, comme des messagers de joie aussi. Alors on est animé justement de cette joie céleste, et on est invité à briller, comme l'étoile de Bethléem, dans un monde de ténèbres morales et spirituelles et autres. Et voilà, on peut permettre à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qu'on rencontre, que Dieu place sur notre chemin, de trouver la voie le chemin du salut. Alors, après, on peut les accompagner, l'étoile a accompagné aussi. On peut les accompagner avec patience, avec support, pour qu'elles puissent rencontrer le Christ. L'étoile a fait tout le trajet pour les amener au Sauveur. Dieu a permis cela. Alors nous soyons de ces messagers qui accompagnent aussi des personnes, peut-être vers le Seigneur Jésus, pour qu'à leur tour, elles puissent connaître cette grande joie. Alors, chanter les cantiques, quand j'étais petit, moi je chantais le cantique, c'était « Je suis la lumière », a dit le Seigneur. Il disait « Avec moi, mon frère, ouvre-lui ton cœur, le monde est plein d'ombre, brillons bien, toi dans ton coin sombre et moi dans le mien ». Voilà, et l'apôtre confirme aussi cela, parce qu'il dit dans Philippiens 2, verset 15, « Afin que vous soyez sans reproche et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération tordue et perverse, parmi laquelle vous reluisez comme des luminaires dans le monde, présentant la parole de vie. » Waouh, on est comparé à des luminaires, à des étoiles. C'est le seul autre emploi du mot, c'est lorsqu'il est question de l'éclat de la sainte cité dans l'Apocalypse. Luminaire. Donc, luminaire, éclat. C'est pas le mot, luminaire comme le soleil, la lune, les étoiles. Mais voilà, c'est pas étoile, c'est pas astère, mais c'est un autre mot. Et, en tout cas, c'est un mot qui parle de briller, d'éclat, de splendeur. Est-ce qu'on a vraiment cet éclat? Est-ce qu'on le montre? Je dis pour moi, le premier. Voilà. Et puis, Matthieu 5, je l'ai pas mis là, c'est déjà la suivante. Non, je l'ai pas là. Matthieu 5, 16 aussi, il dit que votre lumière luise devant les hommes, c'est le Seigneur qui parle, en sorte qu'ils voient vos bonnes œuvres. Donc une façon de briller, c'est en accomplissant de bonnes œuvres pour le Seigneur. Une bonne œuvre, c'est de témoigner de la grâce du Seigneur Jésus et de ce grand sujet de joie. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bon, je vais passer pas mal d'attention sur le premier. On va passer au deuxième. Le deuxième verset, où il est question de grande joie, c'est Luc 2, verset 10. L'ange leur dit, il parle au berger, « N'ayez pas peur, car voici, je vous annonce une bonne nouvelle, l'évangile, un grand sujet de joie qui sera pour tout le peuple, un grand sujet de joie. » Et là, c'est l'annonce de la naissance. Bon, vous voyez que c'est pas très différent. Écoute, c'est la direction. Ici, on arrive à la naissance. C'est la suite, donc, logique et chronologique. Donc, c'est une naissance, c'est toujours une nouvelle. Je disais ce matin, même dans le monde, une nouvelle réjouissante. En principe, hein, les gens se réjouissent d'une naissance. Mais la naissance du Sauveur, quand même. Ça va être extraordinaire. Hein. Celui qui est venu du ciel, naître sur la terre, dans ces conditions, c'était vraiment extraordinaire. Donc c'est une nouvelle qui, voilà, l'incarnation du Christ. Et Luc, il a une façon de dépeindre les choses. On a dit que c'était peut-être un peintre. Et il dépeint des tableaux merveilleux, tout en contraste, tout en ombre et lumière. C'est pour ça que Rembrandt, d'ailleurs, a pu peindre des scènes de l'Évangile selon Luc, avec une beauté vraiment qui est magnifique. Alors, voilà, j'ai lu pas mal de choses sur des explications, sur des commentaires. Et je vais en parler un petit peu. Voilà. Je vais parler du verset premier en particulier, que je n'ai pas... Je vais marquer, oui. En ce temps-là, c'est le début du chapitre, et qui pose la scène, qui cadre. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ça m'a touché. Pourquoi ça? Parce qu'il y a de bonnes raisons d'écrire ça. Parce qu'il y a un contraste flagrant, absolu, énorme, entre ce qui se passe là et ce que Dieu fait, ce que Dieu accomplit. On s'explique. L'empereur, César Auguste, on va en reparler, publie un décret autoritaire dans tout l'Empire, sur toute la terre habitée à l'époque, c'est représentatif du monde d'alors, à une date bien précise, en ce temps-là. Mais sans savoir, il va favoriser et préparer l'exécution d'un décret divin, plus grand, éternel, le décret rédempteur de Dieu. Car Dieu a publié un décret, ça y est quelque part ça, hein, tellement plus grand, qui s'inscrit et qui va s'accomplir lui dans tout l'univers, tellement plus étendu et universel. Et lui, ça va pas être juste pour le temps de la vie de l'empereur, mais pour l'éternité. Je fais allusion à Hébreux, chapitre 1, verset 5. Je raconterai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Bon, c'est un verset qui est trois fois dans la parole de Dieu, dans Psaume 2, dans Acte 13. Voilà, on peut l'interpréter de différentes façons. Il ne parle pas forcément de la naissance, mais je pense que quand même dans Hébreu, dans l'Épître aux Hébreux, je pense qu'on peut voir la naissance du Fils de Dieu, d'essence divine, et c'est là déjà un grand sujet de joie. Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Au moment même où l'homme, en la personne d'Octave César Auguste, c'est le premier empereur, petit-fils adoptif de Jules César, qui n'était pas empereur, donc premier empereur, et le premier qui a voulu s'appeler Auguste. C'était un titre qui, d'habitude, était réservé à la divinité, aux divinités, Auguste. Et bien, donc, lui qui est un simple humain, et il se fait Dieu, on peut dire. On peut dire que l'empereur se fait Dieu, il prend le titre qui est accordé aux divinités de l'époque. Et bien, au moment où il se fait Dieu et exerce sa domination sur tous les hommes par ce décret, Dieu se fait homme. Quand l'empereur se fait Dieu, c'est ce qu'il dit verset. César, Auguste, ça n'a pas été oublié là, pour montrer que vraiment, il se prend pour Dieu. Et bien Dieu, lui, va se prendre pour un homme. Il va devenir homme. Donc, au comble de l'orgueil humain, va correspondre le comble de l'humilité de Dieu. Parce qu'il va venir dans la personne du petit enfant, un petit enfant, Jésus. Et ce Jésus, il va devenir le serviteur de tous les hommes. Voilà la naissance. Quel sujet de joie. Les titres de l'enfant sont tout de même donnés. Au verset 11, on voit qu'il passe, on le voit du berceau, né, sauveur, Christ, Seigneur. Il passe du berceau, né, la naissance, un bébé, sauveur, voilà sa mission. Ensuite, il y a Christ, il va régner sur son peuple, Israël, et puis Seigneur, le maître de tout l'univers. Seigneur, c'était aussi le titre que se prenait, qui était donné à l'empereur, Kurios, Seigneur. Et le titre qui, dans le Nouveau Testament, correspond autant à Jésus-Christ qu'à Dieu, l'Éternel de l'Ancien Testament. Quel sujet de joie et d'adoration. Et puis, ce même César qui organise ce recensement de toute la population, il fait déplacer tout le monde. La preuve, même une femme enceinte, Marie. Le voyage devait prendre 6 à 7 jours, pour 140 kilomètres quand même. Il y avait peut-être un âne, mais il fallait marcher aussi une partie. Peut-être Marie était sur l'âne, je ne sais, hein. Mais 140 kilomètres, quand une femme est enceinte et qu'elle va accoucher près de l'accouchement, ça va pas être une promenade de santé. Et de Nazareth à Bethléem, quelle fatigue, quelle peine pour elle. Tout ça pour accomplir le recensement de l'empereur. Eh bien Dieu, avec Jésus en Jésus, fait le déplacement. Il est venu sur la terre. Il est venu du ciel sur la terre et il vient pour sauver. Il vient à domicile. Il est venu à domicile faire le salut de notre âme. Quel sujet de joie. Et puis, le sens du recensement. En fait, le recensement, c'est pour faire payer un impôt. C'est pour connaître tout ce qui soit assujetti à l'imposition dans l'Empire. Alors, il va exiger percevoir en tout un impôt considérable. Et il va s'enrichir au maximum. Bon, il y a des besoins, bien sûr, pour pouvoir pour remplir les caisses de l'État. Mais lui ne doit pas s'oublier. Eh bien, Dieu, qui est l'être suprême, va venir pour se donner lui-même en offrant le cadeau le plus grand, le plus excellent, son Fils. Dieu vient nous donner son Fils. Voilà le don de Dieu. Quand César Auguste veut amasser, s'enrichir et spolier les autres pour avoir une richesse et l'opulence, eh bien Dieu, lui, voilà, on pense à ce verset, Seigneur Jésus s'est appauvri afin qu'on soit enrichi. Donc, Jésus qui va venir, et c'est lui qui va venir au contraire payer la dette que nous, pour laquelle on était insolvable, la dette que nous devions à Dieu, une dette colossale que nous avions contractée envers Dieu. Donc, voilà encore un sujet de joie. Et puis encore, les conditions, l'empereur est dans son palais à Rome, il impose sa puissance, il a ses légions pour arriver à ses fins. C'est par la force s'il y a qui refuse. Eh bien Dieu, donc, je répète, vient dans l'humilité, dans la fragilité d'un petit enfant, dans la vulnérabilité. Il va naître dans une sombre crèche, pas dans un palais, et pourtant c'est Dieu, pour nous sauver. Sa naissance même annonce en termes déjà voilés sa mort. Deux fois il est dit emmailloté et couché dans une crèche. Emmailloté, on pense à l'enfant qui est privé de ses mouvements, comme le Seigneur Jésus sera privé de ses mouvements lorsqu'il sera sur la cloué. Et puis couché, on va retrouver aussi deux fois, là c'est dit deux fois je crois, et on va trouver, là c'est dit au verset 12 et 16, deux fois, ils virent le petit enfant couché. Eh bien, ça fait penser, le même terme est employé à la mort du Seigneur Jésus, ils virent le lieu où il était couché, et où ses vêtements aussi étaient posés, déposés, couchés, dans un lieu à part. Voilà, donc déjà dans ce l'enfant couché, on imagine ce que sera son parcours et la fin de sa vie. Quel grand sujet de joie. Au verset 11, il est dit « Aujourd'hui, dans la cité de David, vous avez un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » J'ai déjà cité ce verset. Voilà, c'est le message. Le messager de joie, qui c'est ici? Un ange. C'est le premier évangéliste. Il évangélise. Le message, c'est la naissance. Son message, c'est la naissance. Et ce message vient du ciel. Et c'est une nouvelle extraordinaire. C'est du jamais vu, de l'inédit. C'est unique dans le cours d'histoire, c'est magnifique. Les destinataires de la joie, c'est tous les hommes. Ça sera écrit un peu plus loin, au verset 14. Mais en premier lieu, c'est les bergers, les parias, les exclus de la société. Et puis tout le peuple d'Israël et enfin toute l'humanité. Au verset 31 et 32, je n'ai pas marqué, c'est le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Et au verset 32, lumière et révélation des nations. Qui va écouter et s'enquérir de cette nouvelle extraordinaire? Au verset 12, on ne s'interromprait pas tellement ce passage est riche, il y a un signe. En voici pour vous le signe, vous trouverez un petit enfant emmailloté couché dans une crèche. Le signe est décrit, certains ont pu en parler beaucoup mieux que moi, dans un merveilleux échange. Les bergers voient un enfant qui est comme les leurs, couché, emmailloté dans une crèche. C'est Dieu qui prend leur place. Et eux-mêmes vont être illuminés de la gloire de Dieu, de la Shekinah. Ils vont être comme transportés dans le ciel, dans une somme divine. Eux qui étaient privés de temple, parce que c'était des bergers, des parias, on ne leur faisait pas confiance, ils étaient traités de menteurs, ils étaient traités d'impurs. Et ils n'avaient pas le rôle de témoin, ils n'avaient pas le droit de témoigner, parce que c'était des personnes non fiables. Eh bien, ils vont être transportés dans une scène de culte, plus riche que le temple, au milieu du cœur des anges. Ils vont se trouver dans la gloire du Seigneur. Donc ils vont devenir en quelque sorte citoyens des cieux. Le signe, c'est ça. Dieu devient citoyen de la terre en Jésus-Christ, et nous allons devenir citoyens des cieux. Voilà le merveilleux échange que Dieu veut pour nous. Il a quitté la splendeur du ciel, il vient naître dans cette étable pour devenir même un sujet de César. C'est pour ça que les Juifs, le salut vient des Juifs, et Jésus était Juif, mais il a été recensé dans l'Empire romain. Il était sujet de César, sur le papier. Il n'était pas vraiment de la nationalité juive, pour montrer que c'est le sauveur pour l'humanité entière, pas que pour les Juifs. Même si il y a quand même une notion de d'antériorité dans le peuple juif. Et puis, au verset 13, « Soudain, il y a avec l'ange une multitude de l'armée céleste qui loue Dieu. » Voilà. Malheureusement, la terre est restée muette et indifférente. Il a fallu que ce soit le ciel qui vienne là sur terre pour témoigner de la grandeur et de la gloire du Fils de Dieu. Et le ciel n'a pas pu se taire en présence d'un événement si extraordinaire. Et les anges, au verset 17, c'est écrit, divulguèrent la parole qui leur avait été dite. Je disais tout à l'heure qu'ils n'avaient pas le droit de témoigner, et là, ça va être leur premier témoignage. Et quel témoignage? À la suite des anges, je disais tout à l'heure qu'ils étaient les premiers messagers, premiers évangélistes, les bergers vont être les seconds, les deuxièmes évangélistes. Alors après, il y a eu les apôtres, et après c'est à nous. C'est nous. Continuons la chaîne, prenons le relais. Voilà, nous avons tous cette grande mission que le Seigneur nous a confiée. Et, alors nous, alors sachons nous réjouir aussi de cette grande joie. Alors, lorsque nous lisons des versets comme dans 1 Timothée 3,16, où il est écrit que Dieu a été manifesté en chair. Et vous voulez parler dans 1 Timothée 2 de l'homme Christ Jésus. Et à l'exemple de l'ange comme des bergers, sachons montrer notre joie en présence d'un tel événement, et puis en témoignant de l'évangile autour de nous aussi, de cet évangile lui-même qui annonce le Sauveur, et puis en glorifiant, comme les anges aussi, en glorifiant et en louant notre Dieu pour un tel sujet de joie. Je pense à ce chant de Noël, joie dans le monde. Un autre événement, je vais être un peu plus bref quand même, c'est Matthieu 28, verset 8. Du temps a passé et on est à la fin de la vie du Seigneur sur cette terre et il est mort. Pour le moment. Matthieu 28, c'est ce que croient les femmes en particulier. Les femmes quittèrent en hâte le tombeau avec crainte et une grande joie, puis coururent l'annoncer à ses disciples. Bon, ici c'est déjà après. Mais quand elles sont venues au tombeau, c'était pas la grande joie, hein, c'était plutôt les pleurs et la grande tristesse. Elles avaient préparé, dans l'amour qu'elles avaient pour le Seigneur, des aromates pour aller embaumer son corps. Et elles sont parties même de nuit. Elles sont allées au sépulcre pour voir, pour embaumer un mort. Grande tristesse, mais aussi courage, parce qu'on se rappelle qu'il y avait des gardes. Et qu'il y avait une pierre, la pierre était scellée. Comment comptait-elle l'embaumer, je ne sais. Je ne sais pas si elle le savait, pas sûr. Et voilà, la parole des anges qui sont là, qui vont témoigner de nouveau, va, d'autres anges ou les mêmes, on ne sait pas, va faire passer les femmes de l'erreur à la vérité, des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie en quelque sorte. De l'incrédulité à la foi. Elles voient que la tombe est vide, mais plus que cela, elles acceptent la parole des anges, parce qu'une tombe vide, ça ne veut pas dire, hein, on a pu dire quelqu'un l'a enlevé, il a été, ses disciples sont venus, l'ont enlevé, c'est une mystification, il n'y a jamais été, bon, enfin voilà, toutes sortes d'erreurs qui ont pu circuler à l'époque. Mais les anges affirment qu'il est ressuscité des morts, c'est ce qui est écrit au verset 7, il est ressuscité des morts. Et les femmes elles croient. Elles ajoutent foi à la parole des anges, et elles sont consolées, elles sont réjouies. Et elles vont être désignées aussi pour être les premières messagères de la bonne nouvelle. Donc, on a vu à la naissance, c'était des mages, des bergers, pardon, et ici, on a des femmes qui aimaient le Seigneur, qui étaient des disciples, et qui vont être les premières messagères de cette bonne nouvelle auprès des disciples. On sait qu'ils ont été plutôt incrédules. Voilà, la défaite du Seigneur Jésus n'était qu'apparente. Mort et enterré, c'est vrai que ça ne fait pas très signe de victoire, mais pourtant, c'était la victoire. Et Jésus, même par sa mort, est le seul homme qui ait pu vaincre la mort, puisqu'il ressuscite. Donc, en fait, c'est une victoire, et l'ange, le premier, la proclame, puis les femmes, puis les disciples, et nous aussi, à leur suite. Donc on peut proclamer sa naissance, on peut proclamer aussi sa mort. Donc quelle grande joie pour ces femmes d'aller annoncer en courant cette glorieuse nouvelle aux disciples. Ouais, je ne sais pas si nous on court souvent pour annoncer cette nouvelle. Au verset 9, Jésus lui-même vient à leur rencontre et leur dit « Je vous salue, vous réjouissez-vous, je vous salue ». Et c'est un sujet de joie, il leur montre que lui vivant, lui-même est ce sujet de joie, Jésus ressuscité. La plénitude de joie qu'elle ressente se mêle à l'adoration qu'elle lui rende. Alors nous aussi, nous pouvons nous réjouir d'une grande joie dans cette nouvelle qui est inouïe, qui traverse le temps, qui n'a pas perdu sa fraîcheur, ni de sa pertinence, ni de ses effets, ni de ses conséquences. Jésus est ressuscité, le vainqueur de la mort. Il a vaincu aussi pour nous. Sa mort est notre mort, sa vie est notre vie. Voilà, on sait que la résurrection est la preuve, quelque quelques conséquences à résurrection, qu'il est fils de Dieu, selon Romains 1, la meilleure garantie aussi de notre justification, il est ressuscité pour notre justification, un modèle pour nos vies aussi, dans Romains 6, on peut le voir, et puis il est aussi, la promesse que nos corps, à l'image du sien, se lèveront aussi pour la vie éternelle, selon 1 Corinthiens 15. Quel grand sujet de joie là aussi. Tout ce que sa mort et sa résurrection représentent pour nous. La vie du ressuscité. En Luc 24, 52, il y a des disciples là encore qui, après avoir rendu hommage ou adoré, s'en retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Le contexte, c'est que Jésus a rappelé à ses disciples son enseignement antérieur, dans ce chapitre 24, vers la fin. Il leur a donné des orientations pour l'avenir et promis de les aider à accomplir leurs tâches. Puis il est sorti sur le mont des Oliviers, vers Béthanie. Et puis il a levé les mains en haut, dans l'attitude de la prière, de la bénédiction, comme le grand prêtre autrefois qui bénissait l'assemblée, la nombre 6 en particulier. Lui, il a des mains percées par les clous, c'est récent, hein, 3 jours avant, en comptant même selon la manière juive, ça fait moins de 3 jours pour nous. Les bras qui étaient étendus sur la croix, ils s'étendent maintenant en bénédiction. C'est parce qu'ils ont été sur la croix étendus, cloués, que maintenant il peut apporter cette bénédiction. Et c'est le fruit de l'œuvre de la croix. Alors imaginons ensuite ce spectacle qu'ont dû voir les disciples. Il semble que le mont s'élève. Il s'élève, il semble que c'est un mouvement qui est plutôt lent, d'ascension. Donc c'est pas le même mot, chacun sait que l'enlèvement, on est enlevé, nous, comme arraché, pris, en un instant, en un clin d'œil. Donc Jésus, il s'élève, avec ses mains peut-être toujours étendues en bénédiction, il s'élève vers, par sa propre puissance, par sa propre volonté, il s'élève au-dessus des disciples, avec ses mains toujours étendues, dans un geste de bénédiction, jusqu'à ce qu'un nuage le cache à leurs yeux. Par sa résurrection, Jésus avait pris une vie humaine, il l'avait volontairement abandonnée à la mort, et par son ascension, il reprend sa vie céleste, mais sous la forme de l'homme Dieu. Il réalise la promesse qu'il avait donnée à Marie. Il avait pu dire à une femme encore, Marie, Jean 20, 17, « Je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Voilà, il réalise, il avait dit, il le fait. Puisque Jésus a été capable d'accomplir cette promesse, il accomplira aussi sûrement les autres. Celle qu'il a dite en particulier en Jean 14, si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Il nous prendra aussi. Donc l'ascension de l'homme Jésus le ressuscité, son exaltation dans la gloire divine, l'élévation à l'autorité suprême, tout cela peut susciter une grande joie chez les disciples. C'est après cet événement, semble-t-il, qu'ils connaissent cette grande joie. C'est une joie de savoir que celui qui s'est tellement abaissé, humilié, Dieu l'a élevé très haut. Et il a été élevé dans la gloire. Déjà, Esaïe l'avait annoncé. Il avait dit, il sera exalté, élevé et placé très haut. Et le Seigneur Jésus avait dit au sien, si vous m'aimiez, vous vous seriez réjouis de ce que je m'en vais au Père. Alors les disciples louent et bénissent Dieu, c'est le verset 53. Il y a une grande joie qui remplit les disciples. C'est cette joie qui les conduit à exprimer à Dieu la louange. La louange et la bénédiction. La louange en admirant les perfections du Seigneur Jésus et la bénédiction en lui exprimant sa reconnaissance pour les bienfaits reçus. C'est un peu deux éléments essentiels du culte. Voilà, dans l'évangile selon Luc, on sait que ça commence par la louange dans le temple et ça finit aussi par la louange dans le temple aussi, qui est rendue par les disciples à la fin de l'évangile. Cette scène aussi, on peut voir dans cette scène un peu une image de l'Église que le Seigneur Jésus a laissée, qui bénit. Et voilà, l'Église reste sur la terre pour le moment, le Seigneur est dans le ciel. Et on peut imaginer que ce geste, on ne l'a pas vu enlever ses mains, Il semble qu'il continue à bénir Dieu du ciel, les siens, chacun de nous, chacun de ses rachetés et son Église entière. Alors depuis ce moment, le Seigneur Jésus est absent et on ne le voit pas. Mais par la foi, on peut le considérer, là où il est là. La parole nous dit qu'il est exalté, qu'il est glorifié, assis à la droite du Père. Il goûte le repos après l'œuvre accomplie, mais continue d'accomplir son service d'intercession envers l'Église comme envers chacun de nous. Quel sujet de joie. Alors, cherchons à vivre toujours plus dans la communion avec ce Sauveur et qui est près de nous, en fait, même s'il est au ciel, et qui reste dans la communion avec lui, avec Dieu notre Père et avec le Seigneur Jésus. Que nos rencontres aussi en Église, dans la conscience d'être bénis par lui, soient caractérisées par la joie. Cette joie qu'il avait laissée à ses disciples lorsqu'il les a quittés. Ils auraient pu être tristes? Non, ils auraient été joyeux. Joyeux de le voir partir et dans cette position. Alors, nous aussi, de tout notre cœur, sachons bénir le Seigneur exalté et bénir son Dieu, qui est maintenant notre Dieu. Au chapitre 8 du livre des Actes, on trouve une autre scène assez différente. Il est question, avant d'arriver à l'expression de la joie, des esprits impurs qui criaient à haute voix, qui sortaient de beaucoup de gens qui étaient possédés, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville-là. Alors on voit ici que il y a eu l'évangile annoncé dans cette ville, on va dire où c'est. Il y a eu un prédicateur. Le chapitre juste avant nous a montré qu'Étienne vient de mourir en martyr. Et dès le début, on voit que le sang des martyrs, comme ça a été dit, a été la semence de l'Église. Et aussitôt qu'un est enlevé, est mort, est décédé, un autre se lève. Et ici, c'est Philippe. Philippe le diacre. Donc ça nous montre qu'il n'y a pas besoin d'être institué évangéliste pour annoncer l'Évangile. Un serviteur se lève pour reprendre son travail, Philippe. Et l'Évangile commence ainsi à se répandre dans le monde, à cause de la persécution, nous dit la parole. Philippe prêche dans la ville de la Samarie, est-il dit. Est-ce que c'est la ville Samarie, qui s'appelait Sébaste à l'époque, ou est-ce que c'est Sychar, on ne sait pas trop. En tout cas, on voit qu'il y a un auditoire dans cette ville qui est nombreux. Et puis, parce qu'il y a des problèmes quand même. Il est affligé de nombreuses personnes malades. Il y a des malades, des possédés. Il y a des personnes superstitieuses. La suite parlera de Simon, le magicien. Eh bien, en tout cas, il y avait un désir d'entendre l'Évangile. Plaise à Dieu qu'aujourd'hui encore, il y ait le désir chez beaucoup d'entendre l'Évangile. Alors le message donné, il porte sur un sujet, le Christ. Philippe leur annonce Christ. Ils cherchaient en fait, il fallait prouver à l'époque que c'était ce Jésus qui était mort, qui était vraiment le Messie. Parce que certains attendaient encore un autre Messie. Mais c'était lui le Messie, le Sauveur. Et puis, ici le message est confirmé par des signes. Des signes qui sont accomplis. Des guérisons, des délivrances, des exorcismes ou autres. Et puis le résultat, ben là, c'est Dieu qui opère. Des guérisons. La puissance du nom de Christ est reconnue et une grande joie en résulte. Donc la joie est le résultat de cet évangile qui a été annoncé et qui a été reçu par de nombreuses personnes. Alors, voilà, on voit que Luc nous décrit le début de l'Église, la joie du missionnaire, la joie des convertis. Nous, comme Anne, en 1 Samuel 2, on peut dire « Je me réjouis en ton salut ». Nous aussi, personnellement, nous pouvons nous réjouir dans le salut. Même si on n'a pas été délivré de la possession, ou en tout cas délivré de la maladie, du péché, amené à la vie de Dieu, c'est un sujet de joie. On repasse au verset « Puiser avec joie aux fontaines du salut » et David aussi « Rends-moi la joie de ton salut ». On comprend que c'est quand même quelque chose d'essentiel qui nous concerne les uns les autres. Voilà. Dans la Bible, il y a de nombreux témoignages. Dans Habacuc, on trouve « Moi, je me réjouirai en l'Éternel, je m'aiguirai dans le Dieu de mon salut. » Donc, se réjouir non seulement dans le salut, mais dans le Dieu qui nous offre ce salut. Nous réjouir en Dieu, l'auteur de notre salut, et dans le Seigneur Jésus. Alors, c'est une joie d'avoir entendu l'Évangile, on a à être reconnaissant pour cela, d'avoir entendu le message de salut, que Dieu nous ait donné la foi aussi pour l'accepter, d'avoir cru. Et d'être devenu des enfants de Dieu, de faire partie de l'Église du Seigneur, de connaître ce puissant Sauveur et son amour. La sixième, c'est le succès de l'Évangile qui nous est rapporté dans le livre des Actes, encore au chapitre 15. Il écrit le verset, je lis, racontant la conversion des nations, et il causait une grande joie à tous les frères. Alors le contexte, un petit peu pour situer, c'est à l'assemblée d'Antioche, il y avait eu une controverse qui s'était soulevée à propos de la circoncision qui serait nécessaire au salut. Et Paul, Barnabas et quelques frères sont délégués par l'assemblée pour aller à Jérusalem pour régler cette question. Et ils ne perdent pas leur temps, parce que dans les villes où ils passent, tout le long de leur voyage, ils vont, là il n'est pas question d'évangélisation, mais ils vont rapporter des récits de conversion, racontant la conversion des nations. Voilà, de montrer que l'Évangile a bousculé les frontières, qu'il est sorti des confins d'Israël pour se répandre dans le monde entier, le monde d'alors, l'Asie mineure en particulier, eh bien, ça procure un grand sujet de joie à tous les frères et sœurs qui les entendent. Donc, c'est la joie, se réjouir du succès de l'évangélisation. Ben, nous aussi, nous pouvons le faire. Hein. L'Évangile n'a jamais été autant annoncé qu'aujourd'hui, quand même. On peut se réjouir de cela, de tant de manières différentes, par les GDE, vos frères ici présents, et tant d'autres moyens, par les ondes, par Audiovie, par des frères et sœurs missionnaires qui sont partis au loin, et voilà, il y a tant de moyens, les réseaux sociaux, la télévision aussi, dont Dieu se sert, et la Bible aussi, qui est traduite dans autant de langues, des centaines de langues, même milliers. Alors, nous aussi, nous pouvons nous réjouir déjà de la conversion d'une personne, quand quelqu'un passe de la mort à la vie, devient chrétien, devient croyant, quand un pécheur se convertit, eh bien, puisqu'il y a de la joie au ciel, il peut y avoir aussi de la joie dans nos cœurs, sur la terre, qu'on communie un petit peu avec la joie du ciel. Voilà, on peut se réjouir donc des progrès de l'Évangile, on se réjouit quand dans nos familles, un enfant vient dire au Seigneur, c'est un grand sujet de joie, on en parlait, quand quelquefois on a attendu longtemps, on a prié pour cela, et puis voilà, Dieu répond, et c'est un grand sujet de joie, et ceux qui sont encore en attente, eh bien voilà, Dieu entend, et Dieu écoute, et Dieu répondra. Et on peut se réjouir de tout ce travail qui est accompli. C'est une immense joie pour tous les enfants de Dieu quand on apprend que la famille de Dieu s'agrandit et quand il y a de nouvelles naissances dans la famille et des frères et des sœurs qui sont ajoutés à cette famille de Dieu. Je termine avec le septième verset, c'est dans Philémon qu'on trouve. Pourquoi je ne l'ai pas mis tout de suite? Allez, tant pis. Philémon 7. Nous avons en effet une grande joie et un grand encouragement dans ton amour, parce que le cœur des saints est réconforté par toi, frère. Voilà, je disais au début que là, les mots sont un peu différents. C'est pas la méga charis. La méga, oui, je ne l'ai pas dit, c'est vrai que nous aussi, ça devrait nous procurer une méga joie, hein, une joie de bonheur infini, de tous ces sujets de joie là qui nous sont présentés. Alors ici, c'est une joie nombreuse presque, pour nous, charis. Alors le contexte, c'est Paul qui est retenu prisonnier, on sait que Philémon c'est une épître de la captivité, et il est prisonnier à Rome en raison de sa foi justement. Il a été le moyen de la conversion d'Onésime, et c'est un esclave qui a pu de chez son maître Philémon, et Paul écrit c'est l'occasion pour Paul d'écrire une lettre à ce frère, pleine d'affection, pour lui recommander d'accueillir son esclave comme frère. Alors, le témoignage de la foi et de l'amour manifesté par Philémon, eh bien, est parvenu aux oreilles de Paul. C'est un beau témoignage, ça. Montrer de l'amour à l'activité, un amour vrai, fervent, authentique. Et ça réconforte l'apôtre. L'apôtre qui est dans sa prison, voilà un réconfort pour lui, un sujet de joie. Bon, il ne dit pas spécialement pour lui, mais il dit que le cœur des saints, et certainement le sien, est réconforté par toi, frère. Le cœur des saints, il en fait partie certainement. Voilà. Et voilà, ça apporte beaucoup de joie aux croyants, et l'apôtre les associe aussi à sa joie. Alors, nous aussi, ben, on est invités à nous revêtir de l'amour qui est le lien de la perfection. Il faut être, qu'on soit conscient de ce lien de l'amour qui existe, et ce lien qui nous unit au Seigneur et qui nous unit les uns aux autres dans l'Église. Il y a un lien qui est fort, qui est indestructible, qui existe. Nous n'avons pas à le créer, mais nous avons à le maintenir et à vivre en fonction de ce lien. Il faut que nous le renforcions, en fait, par notre comportement, par notre manière d'être. C'est pour ça que c'est le début du verset. Oui, normalement, je ne vais donner que la fin d'abord. C'est « Revêtez-vous de l'amour ». Alors, donc, il y a l'amour qui est le lien de la perfection. Et ensuite, notre affaire, notre travail, c'est de nous en revêtir. Voilà, donc vivre cet amour entre croyants, voilà ce qui réjouit le cœur de tous. On peut se réjouir également des témoignages de cet amour qu'on peut vivre dans l'Église ou parmi nos frères autour de nous. Voilà, on vient de survoler un petit panorama de très grande joie qui a été éprouvée par les croyants de l'époque néo-testamentaire. Dans toutes ces scènes, on a constaté que la joie a trouvé sa source en fait dans le Seigneur, ou dans tout ce qui gravite autour de lui, dans des conversions, des événements qui se rattachent à lui ou à ses rachetés. Et ces scènes qui sont inspiratrices de joie, de grande joie, même de très grande joie à l'époque, peuvent encore alimenter notre joie aujourd'hui. Je crois que c'est pas un écrit qui est, c'est loin d'être désuet, et les circonstances racontées sont loin d'être surannées ou révolues, mais elles sont encore d'une actualité brûlante. Donc voilà, je récapitule. On a vu l'étoile de Bethléem avec la joie de connaître la direction, le moyen du salut. On a vu la naissance du Christ avec la joie de la venue du Fils de Dieu comme homme, son incarnation. On a vu le tombeau vide et la joie de la victoire du Seigneur sur la mort annoncée par les anges. On a vu la joie de savoir Jésus ressuscité, exalté plutôt et glorifié à la fin de l'évangile selon Luc. On a vu la joie causée par l'annonce et la réception de l'évangile, la joie du salut, la joie de la régénération, la joie du succès de l'évangile, la conversion de nombreuses personnes, et puis le témoignage de l'amour dans la vie de l'Église. Voilà, que ce soit inspirateur pour chacun de nous et qu'on puisse vivre un petit peu des circonstances semblables qui nous réjouissent tout au long de notre vie. Merci.
Pouvez-vous asseoir si vous voulez bien et je vais demander aux personnes à qui j'ai tendu un petit papier avec des questions, si vous voulez bien vous avancer pour un petit moment. Faire, il te faut quoi, 5-10 minutes à la fin? Il faut 5-10 minutes, donc là on peut... Oui. Il y a des questions sur la joie, et c'est peut-être qu'il y a un dialogue entre vous 8, si, oui, 8, 9, voilà, donc... Si il faut apporter des réponses très courtes parce qu'on a très peu de temps. Si par contre, si vous n'êtes pas d'accord, il faut aussi oser couper la parole à votre frère, surtout s'il est trop long d'ailleurs. Voilà. Donc une sorte de petit débat entre vous si la réponse n'est pas consensuelle. Alors, dans les questions qui semblent importantes, est-ce que la joie, c'est un don, une invitation ou un commandement? Est-ce que quelqu'un a une réponse?
Ça dépend, oui et non.
Il dit oui et non.
Il me semble qu'on on a eu des personnages où les questions du Saint-Esprit qui nous donnent la joie dans un sens. Et au Seigneur qui dit aussi, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète.
On a vu dans un des passages qu'on a étudié, là après, on a vu dans la fête des tabernacles, mais c'est valable aussi pour celle d'avant qui était célébrée à Jérusalem, tu ne seras que joyeux. Donc dans ce cas-là, ça paraît comme un commandement.
Oui, quand... Ça marche ?
Non.
Pour
l'autre.
Non, comme ça on parle. Oui, quand il est dit « Réjouissez-vous toujours », ça s'appelle un commandement, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Mais nous, on n'aime pas trop les commandements, alors on dit plutôt une invitation. Le Seigneur nous invite. Le premier mot, c'est un don. Et ça, ça nous a été dit ce matin. Dans le don, il y a quelque chose de très fort. Je voudrais être joyeux, ben, j'y arriverai pas tout seul. C'est Dieu qui me le donne. Et même si on lui dit, Seigneur, il faut que je sois joyeux, je ne sais pas si ça va marcher. Mais si on lui dit, Seigneur, tu peux me le donner. C'est comme pour la fidélité dans le chemin. On n'a pas la force, mais il y a un don, c'est-à-dire un cadeau de Dieu qui nous est donné, de nous réjouir en lui, alors qu'il nous accorde ça.
Puis, dans le groupe, on a médité justement par rapport à la fête des tabernacles. Je ne sais pas si je sais bien. Bon, vous m'entendez? On a médité par rapport à la fête des tabernacles. On était question de ce que c'était un commandement. Bon, c'est moi qui... Ma voix qui est faible. Donc, c'était un commandement. Il fallait célébrer cette joie, cette fête, en l'honneur de l'Éternel, pour glorifier l'Éternel, être que joyeux. Mais on a vu tout à l'heure aussi le lien qui a été cité par rapport à la grâce de Dieu, le lien entre la joie et la grâce. C'est parce que Dieu nous a fait grâce que l'on peut obéir à ce commandement, que l'on peut se réjouir. Tu te réjouiras, tu ne seras que joyeux, car Dieu te bénira. Et nous on peut dire, car Dieu nous a bénis.
La question suivante, c'est est-ce que la joie doit toujours se voir, hein, ou est-ce qu'on doit cacher sa tristesse intérieure par un faux semblant de joie? C'est-à-dire, j'ai pas trop envie que les autres voient qu'au fond je suis triste. Ben voilà, je vais faire le visage de quelqu'un qui est joyeux et peut-être être un petit peu en surreprésentation, mais j'ai pas envie qu'on me dérange. J'ai envie de voilà qu'on me laisse tranquille. Donc je fais le chrétien joyeux. Est-ce qu'on peut faire ça?
Juste rappeler un verset que Jean-Paul a cité tout à l'heure, il a, à toute vitesse, parce que tout ce qu'il nous a dit c'était hyper condensé, il a cité le comportement de David dans le psaume 51, « Rends-moi la joie de ton salut ». Ça veut dire, à mon avis, qu'il ne l'avait pas, mais il aspirait à la retrouver. Donc je crois qu'il n'était pas hypocrite, il vivait certainement... Ce qu'il ressentait.
On ne peut donner que ce qu'on a. Alors dans un sens, je ne sais pas, mais vous avez perdu envie de rire. Votre femme a fait de grandes souffrances, vous êtes triste. Mais c'est normal. Dieu ne nous a pas demandé d'être des stoïciens. Et le Seigneur Jésus, il a pleuré au tombeau de Lazare. Et puis, Paul, à un moment donné, si je vous parle, il y a une épître de l'épître de la joie, vous me direz Philippiens. À un moment donné, il parle il a peur d'avoir tristesse sur tristesse, et il nous dit aussi de se réjouir dans le Seigneur. Alors non, si t'es triste, si t'es mal, sois mal. Et c'est comme ça que tu pourras connaître la consolation de Dieu. Si tu es triste, tu peux être paisible. Et c'est ta paix qui parlera aux autres. Et de notre côté, plus dans le suivant, excusez-moi, est-ce que ma joie montrée aux autres, à mon avis, c'est une mauvaise question. Je ne montre pas ma joie, si j'ai la joie, elle se voit.
J'ai étudié l'histoire de Samuel et de David à un moment donné. Et à un moment donné, il y a l'Éternel qui dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur lui, et après c'est l'onction de David. Donc il y avait un temps qui était bon pour pleurer, mais il y a un temps aussi de s'arrêter. C'est pas facile de discerner les choses, mais je crois qu'il y a la place pour les deux. Et ce qui est peut-être problématique ou voilà, c'est de se voilà, de rester dans une situation de deuil qui est légitime et qui est bien sûr naturelle quand il arrive des choses comme ça, mais de s'en voilà, de d'y rester et de pas arriver à en sortir. Et à un moment donné, Dieu dit, quand cesseras-tu ? Il y a un moment pour s'arrêter, et voilà, il y a des moments pour se réjouir, il y a des moments aussi pour pleurer, il faut savoir les distinguer, je pense que c'est voilà, c'est la vie.
Question suivante. Est-ce qu'on arrive vraiment toujours à se réjouir avec ceux qui se réjouissent ? C'est pas facile. Il y a cette part d'égoïsme qui est en moi, où finalement, c'est sa joie, c'est pas la mienne. Puis peut-être une part de jalousie. Lui, il a du succès. J'ai de joie, et bien moi je suis. Donc est-ce qu'on arrive vraiment à se réjouir avec ceux qui se réjouissent ? Est-ce que ce serait pas plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent ?
Juste un verset encore. Alors, il n'est pas question du Seigneur, il est question du temps dans le ciel, donc c'est peut-être pas tout à fait applicable, mais il semble que l'idée est là. Quand le Seigneur dit à son serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître. Donc il est appelé à, voilà, à venir et à se rapprocher, à partager la communion de la joie avec son maître.
Ça marche là ? C'est bon ? Oui, la joie est tellement liée à l'amour que si on aime son frère, vraiment, on va se réjouir de tout le bien qui peut lui survivre. Hein. Donc il faut se placer du côté de Dieu, Dieu qui nous aime. Si nous, on manifeste l'amour tel que Dieu le conçoit et le voit, et nous invite à le manifester, on va se réjouir de tout le bien qui arrive à notre frère, et on va pleurer lorsqu'il est en peur. Ça semble, voilà, c'est le fruit, le reflet de la communion qui existe entre les uns et les autres. S'il y a de la jalousie et l'égoïsme, c'est une manifestation de la chair. Si on envie l'autre, bah, c'est vrai qu'après, il peut y avoir une situation difficile. Quelqu'un qui est sans boulot, sans travail, ou l'autre qui se réjouit d'avoir une augmentation, ou une promotion, qui gagne ça et des mille, bon, c'est vrai qu'il va se sentir un peu frustré. Mais, voilà, c'est nous placer sous le regard de Dieu et avoir des réactions que Dieu veut nous voir vivre en nous laissant guider par son esprit.
Autre question, je vois ma soeur, mon frère qui est découragé, qui est dans un état dépressif, voire qui a une dépression, qu'il soigne comme une maladie. Comment je peux l'aider à ne pas perdre espoir ?
Une maladie, c'est une maladie quand même. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui s'était dans une sorte de prédication. Il parlait du péché, comme il dénonçait les péchés, et dans parmi les péchés, il mettait la dépression. Alors là, excusez-moi, mais il sait pas ce que c'est, quoi. Quand on est malade, on est malade. Et quand on est malade, on a besoin de soins. Il y a des médecins d'abord, et ensuite. Et puis peut-être quelqu'un qui chemine à côté. D'un autre côté, peut-être de toute manière parler du Seigneur, s'entretenir avec la personne du Seigneur, de voir comment le Seigneur agit avec l'un, avec l'autre. Et puis surtout, on n'est pas forcément chargé d'un message, être avec, c'est tout.
Oui, tu viens de dire être présent auprès de celui qui est découragé. C'est une chose, je pense. Hein.
Bon, celui qui est en pleine dépression, on ne va pas lui apporter la joie en 5 minutes, ça c'est sûr. Mais dans le chemin vers la joie, il y a quand même la paix. Et on peut peut-être avancer dans cette direction. Quand je suis découragé, Jésus est là. Il voit ma tristesse et il désire m'accompagner. Et ça, quand je le réalise, ça m'apaise. On peut peut-être aider les personnes dans ce sens-là.
Aussi que c'est... Jacques, je crois que...
Oui, je veux simplement lire quelque chose. Notre Père Céleste a compassion de tous ses enfants. Il sait de quoi nous sommes faits. Il est capable d'entrer dans des détails intérieurs dans lesquels aucun homme n'a accès. Et je lis simplement ceci, une expérience de David, au psaume 37, verset 25, « J'ai été jeune et je suis vieux, et je n'ai pas vu le juste abandonné. » C'est bon de parler avec la personne, comme dit Élie, de prendre le temps qu'il s'inscrive entre nous, que Dieu, que le Seigneur amène entre nous une sorte de communion et de vraie liberté. Et quand ces choses arrivent, on peut dire, mais regarde, à la fin d'une vie pleine d'expériences, David dit, j'ai été jeune, je suis vieux, je n'ai pas vu le juste abandonné. Et je citerai un autre passage du psaume 41, le Seigneur pense à toi.
Juste au début de la deuxième épître aux Corinthiens. Alors souvent il est question dans nos traductions de consolation, le terme grec signifie aussi beaucoup encouragement. Et finalement Paul il dit, mais voilà, au moment où j'étais le plus bas, eh bien, le Seigneur m'a encouragé. Donc peut-être que la seule façon que l'on peut avoir, ben, c'est d'inviter à regarder vers le Seigneur, de partager quelque chose du Seigneur.
Aussi, dans les visites qu'on peut faire, je fais un peu d'aumônerie, on nous apprend beaucoup à être là et à écouter. Alors des fois, ça semble un peu frustrant parce que, voilà, on a quelqu'un qui est en face de nous qui est, voilà, qui est peut-être dans une situation de tristesse et de dépression. Mais juste écouter son histoire, écouter, et c'est un peu ce que Jean-Paul nous a dit, la présence, l'amour fraternel manifesté par juste une présence, eh bien ça réjouit. Et c'est pas notre responsabilité de vouloir absolument que la personne ait de la joie, mais juste une présence, être là, entendre, écouter, comprendre ce qui est dit, et bien après on a des témoignages qui disent ça m'a fait tellement de bien, et voilà, on n'a pas forcément donné d'exhortation, on n'a pas forcément donné de commandement, des fois même pas lu la parole de Dieu, mais juste venir au nom de Dieu, au nom de Christ, au nom du Seigneur, bah ça réjouit le cœur.
Je rajoute juste que Job, dans son livre, il dit que non seulement il aidait les malheureux, les misérables, mais en plus, il dit au chapitre 29, « Je leur souriais quand ils perdaient le courage. » Je trouve ça un très très beau texte. Arriver simplement, pas avec une joie qui soit complètement exubérante par rapport à quelqu'un qui est dans la tristesse, qui est dans la dépression, mais juste un sourire. Un bateau était secoué par d'énormes vagues, et risquait de se briser sur les rochers aux abords de la côte. Un des voyageurs, désobéissant aux ordres du capitaine, demandant à tous de rester dans leur cabine, alla jusqu'au poste de pilotage. Là, le pilote, bien accroché à la roue, l'a manœuvré avec dextérité pour éloigner le bateau du rivage. Le pilote, voyant ce passager quelque peu inquiet, ne fit que lui sourire. Aussitôt, rassuré par ce sourire, le passager revint vers ses compagnons de voyage et leur dit « J'ai vu le pilote. » Il souriait. N'ayez pas d'inquiétude.
Oui, si vous voulez.
Étant été aide-soignant, la première chose qu'on m'a appris, c'est que devant la souffrance, on est peut-être sympathique, on sait qu'il souffre. Il y a l'empathie, on sait qu'il souffre, mais on voudrait souffrir aussi, pour comprendre. Mais les compassions que nous apprenons avec le Seigneur, il souffre avec.
Je ne sais pas si on fera toutes les autres questions. Vous voulez dire quelque chose?
Tout à l'heure, Élie a cité Philippiens 4, avec une partie du verset, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Encore une fois, je vous le dirai, « Réjouissez-vous. » Donc, dans le Seigneur, par la grâce du Seigneur. Et je me souviens d'un vieux frère qui est toujours présent, mais pas ici aujourd'hui, mais je lui faisais part de quelques difficultés. Et il me dit, il m'écoute, et au bout d'un moment il me dit, ben, parle-en au Seigneur. Et c'est vrai que c'est, si on doit se confier en quelqu'un, c'est premièrement encourager nos frères et sœurs à se confier dans le Seigneur. Lui connaît toutes choses, et il amène toutes choses à bien pour nous.
Est-ce que quelqu'un réfléchit à une des questions qu'on n'a pas abordées, qui souhaite apporter une mini-réponse?
Je pensais à la question, quels sont nos ennemis de la joie? Le péché, et je pensais au texte qu'a lu tout à l'heure Daniel par rapport à « Rends-moi la joie de mon salut », c'est dans le psaume 51, qui est le psaume de repentance après le péché. Donc c'est bien lié dans ce cas-là précis. Je ne dis pas que c'est lié à chaque fois qu'il y a la tristesse ou autre, mais « Rends-moi la joie du salut », si c'est à cause d'un péché, la repentance, et puis rends-moi la joie du salut.
Alors merci à tous de vous être prêtés à ce petit jeu des questions-réponses. Et voilà, on va peut-être redonner la parole à Jean-Paul pour la conclusion de cette journée.
Alors, tu me rebranches. On m'entend? Oui. Voilà, je vais rebondir un petit peu sur un verset qu'on vient de lire. Je pensais que cette présentation m'adressait plutôt à... C'était plutôt en vue de jeunes, mais tout le monde a un certain esprit jeune quand même. Donc, quel que soit l'âge, on a, hein, comme pour les jeunes de 7 à 77 ans, comme la BD qui était adressée à eux, on va faire comme. Eh bien, cette présentation tiendrait par la route si je vous mettais de présenter, non pas le véhicule tout-terrain, mais le verset tout-terrain. Pour faire face à toutes les situations, même sur les parcours les plus difficiles, j'ai nommé Phil 4-4. Philippiens 4-4. Donc, je vous présente, avec le titre « La joie toujours », il a été cité tout à l'heure, et un verset que, c'est vrai que parler de joie sans nommer ce verset, c'est un peu anormal, un peu extraordinaire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Lorsqu'on répète un ordre, hein, les parents qui font aux enfants, c'est qu'ils n'ont pas bien ou entendu, pas bien compris, ou qu'ils ne veulent pas trop obéir. Donc il faut quelquefois insister. Je crois que l'apôtre, c'est un petit peu comme ça qu'il l'envisage. C'est un ordre qu'il répète à deux reprises, et même davantage dans cet épître, où il est question à maintes reprises de se réjouir pour de nombreux sujets. C'est intéressant à considérer, mais bon, d'autres l'ont fait beaucoup mieux dans d'autres occasions. Alors, s'il le dit aussi, c'est parce que ce n'est sûrement pas facile d'être joyeux. Voilà, il y a peut-être des clés à trouver, des secrets. L'apôtre, en tout cas, semble-t-il, avait trouvé le secret, lui, puisque même dans sa prison, une fois de plus, à Rome, il arrivait à se réjouir et à montrer l'exemple à tous ses frères. Beaucoup pensent là que la joie dépend du caractère de chacun. Certes, la personnalité influe sur la joie, sur la façon de la manifester, mais la joie chrétienne, c'est pas en fonction du caractère, puisque c'est Dieu qui nous la donne, Dieu qui nous l'offre, et qui nous invite à la recevoir, à l'accueillir, et qui nous encourage, qui nous ordonne de la vivre, de la mettre en pratique ensuite. Alors, tout à l'heure, quelqu'un, c'est peut-être Olivier qui a pu dire que comme disait François de Sales, un chrétien, à l'époque il disait un saint triste, est un triste chrétien. Donc c'est une formule qui montre effectivement que la joie est vraiment liée au statut de chrétien. C'est pas possible sinon. Un chrétien triste, voilà, est un triste chrétien, c'est pas mal dit. Je ne vais pas épiloguer. Une autre citation de Maître Eckhart, c'est un dominicain du XIIIe siècle, qui disait « Si tu remerciais Dieu pour toutes les joies qu'il te donne, il ne te resterait plus de temps pour te plaindre. » Donc c'est un regard que l'on doit avoir sur ce qui est positif, sur tout ce que Dieu nous accorde. Et nous, quelquefois, même dans la façon de juger des situations, eh bien, on a tendance à voir ce qui ne va pas, ce qui est négatif. D'ailleurs, on est un peu enseigné à ça à l'école. Ben voilà, il faut chercher la faute, il faut chercher l'erreur, il faut chercher ceci, cela. Mais on note peu tout ce qu'on a de positif, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, tout ce qui est juste que Dieu nous accorde. Et c'est ce qui doit primer sur le fait de fixer notre attention sur ce qui nous manquerait, ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas. Alors, j'ai écrit là, si tu es un chrétien qui est né de nouveau, tu peux être joyeux. En fait, si on réfléchit bien, si on analyse notre statut, notre nouvelle nature, ce qu'on est devenu, il n'y a aucune raison de ne pas l'être. La joie, eh bien, il faut en même temps, même si c'est une invitation, un ordre et un don, eh bien, il nous faut la cultiver, il nous faut l'entretenir. Un petit peu comme dans la sénette, quelquefois on l'oublie ou on a tendance à ne pas rechercher à vivre dans cette joie. Alors cette joie, il faut donc la désirer, je disais, il faut la recevoir, la cultiver. C'est vrai que la joie aussi pour le chrétien, c'est un peu le thermostat de son bon état spirituel. C'est un chrétien qui est joyeux, on peut se dire, ben voilà, un chrétien qui vit une vie chrétienne normale, en quelque sorte. Et la tristesse, si c'est une tristesse, je comprends que dans les situations, dans les épreuves, il y a de la tristesse qui se mêle aussi à ce joie intérieur. Mais la tristesse qui caractériserait un chrétien serait un contre-témoignage quand même au fait qu'il soit chrétien. Et comme je disais un petit peu dans les deux images des nuages, eh bien, voilà, l'esprit doit nous aider à produire la joie. L'esprit ne produit pas la tristesse, il produit la joie. Alors, c'est ce qu'il faut nous rechercher. J'aurais pu citer dans cette image un verset du livre des Proverbes. J'aime beaucoup ce verset. Je ne sais pas si je vais le retrouver. C'est Proverbes 3, je sais, verset... perdu le temps, là. Lorsqu'il est question du ciel clair, du ciel qui chasse les nuages, où est-ce qu'il est, ce verset? Bon, j'aurais dû... Pour ça, c'est Proverbe 3, il me semble, non? Bon, on le cherchera à autre moment. Bon, il n'y a pas l'air. Excusez-moi. Je ne vais pas rester. Non, c'est pas Proverbe 3, alors. C'est Job. Bon, ça m'échappe. C'est pas... Ah ouais, ça. Ouais, je l'avais en plus tout à l'heure. Merci. 37-21, c'est vrai. 37, ça me revient. Ouais, je trouve ça un beau verset qu'on peut appliquer au point de vue spirituel. Maintenant, on ne voit pas la lumière brillante. Elle est cachée dans les nuits. Mais le vent passe et les chasse et produit un ciel clair. Je trouve qu'avec l'image que j'avais montrée des nuages, voilà, je trouve qu'au point de vue spirituel, ça peut le faire aussi, et montrer que le vent de l'esprit peut ramener la clarté de la communion avec Dieu, de la jouissance de son amour. Voilà, le vent de l'esprit qui peut chasser les nuages, tout ce qui assombrit nos vies, et qui peut produire un ciel clair, un ciel lumineux. Voilà, je reviens ici à quelques réflexions qui sont notées. J'ai mis ici, sois convaincu, ça peut faire des jeunes, donc je répète, que Dieu fait travailler toutes choses pour ton bien et pour sa gloire. Et si on est convaincu que cela, même les choses qu'on n'arrive pas à comprendre, eh bien on peut leur attacher du prix, hein, parce que c'est Dieu qui les a permises, et attacher du prix même à ces circonstances, même difficiles, parce que Dieu les permet, et au travers de ces circonstances, eh bien, selon le prix qu'on leur accorde, on peut se réjouir ou non. Voilà, on peut avoir des réactions différentes, mais si on réalise qu'elles sont permises par Dieu, on réalise que Dieu veut nous enseigner quelque chose, nous enrichir à travers les circonstances, même qui peuvent paraître tristes ou difficiles. Ensuite, on a déjà vu, pense à partager la joie avec ceux qui t'entourent. La joie, c'est un cadeau qu'on n'a pas à garder pour soi. Il ne faut pas être égoïste dans ce domaine comme dans bien d'autres. Et on a à la partager comme des biens matériels aussi. Sois convaincu que l'unique source de joie sûre, elle est digne de confiance et durable. Et c'est Jésus-Christ, cette joie qui ne change pas, qui est fiable. Qui est certaine, immuable. Voilà, c'est Jésus-Christ qui est la source de toute notre joie. Par la lecture de la Bible, on a vu les ennemis, et là c'est plutôt les amis, ce qui peut favoriser le développement de cette joie en nous. La lecture de la Bible, la pratique de la prière, on peut progresser dans la vie de justice, de paix, de joie dans l'Esprit Saint. On peut grandir dans cette joie, apprendre à la vivre, à la communiquer un petit peu plus, toujours davantage. Alors j'ai mis, ah oui, il y a eu, pourtant j'avais corrigé ce vite à joie. Voilà, l'invitation que j'adressais à tous, aux jeunes en particulier, peut être facilement mémorisée par un slogan. Voilà, le slogan c'est « Avec le Seigneur, vis ta foi, vis ta joie ». Voilà, vis ta foi, vis ta joie, parce que c'est la foi qui est un peu l'initiative de la joie, puisque quand Dieu nous la donne, il faut l'accueillir, il faut croire que Dieu nous la donne, il faut la désirer, il faut la vouloir. C'est comme la foi pour le salut, je crois. Eh bien, la joie aussi, elle s'accepte, elle se reçoit, elle se désire, et on peut la demander à Dieu pour qu'il nous la fasse vivre vraiment au fond de notre cœur, et voilà, qu'on puisse vivre de foi. C'est dit de nombreuses fois dans la parole de Dieu, le juste vivra de foi, et la foi, une des manifestations de cette foi, ce sera la joie, qui sera un témoignage puissant autour de nous et pour voilà, tout ce qui nous entoure. Alors, pour chacun, pour moi, pour vous, qu'on puisse vivre notre foi avec le Seigneur, et notre joie en lui, qu'elle grandisse pour sa gloire.